Speakerine. Putain, il est pas là, merde. Plan de secours, Speakerine 2. Speakerine 2.
Oui.
Ah, super.
Attends, il me faut du texte, moi. Attends. Ah, mais oui, tu me l'as envoyé.
Éphémère 89.1.
Il y a quoi après nous aujourd'hui? On sait pas.
Pas le jingle dans 2 minutes. 2 secondes. Non, je ne sais pas, aucune idée. Vas-y.
Vous écoutez Radio Éphémère. Nous sommes samedi 24 mai 2014. Ouais, c'est mieux avec le son un peu plus bas. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead, et à 17h, éphémère, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Et en plus, ce soir ou cet après-midi, vers 17h et tout, éphémère est au bikini pour le week-end des curiosités.
Avec mais, une super prog.
Mais dans l'immédiat. Ouais, ça, c'est toi qui le dis.
Ça déchire.
C'est toi qui le dis.
Oh, ils arrêtent pas d'appeler, là. D'ailleurs, c'est pas la peine d'appeler. Hein. Non, non, on n'a pas de place à faire gagner.
Ah non, c'est fini les places. Ouais. Hein. Non. C'est
Thomas, le... t'appelles pas, j'espère.
Voilà. Mais dans l'immédiat.
Non, je n'appelle pas, c'est toi qui m'as appelé.
Ah bon, d'accord, ok.
Mais dans l'immédiat.
Par contre, j'entends que toi, j'entends pas du tout du score.
Ouais, c'est pour ça que tu me coupes la parole. Mais dans l'immédiat, voici...
J'ai entendu le rire de Xavier, c'est tout.
Voici votre magazine littéraire de la promenade des Anglais que vous attendez.
Je n'entends pas.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Mais une nouvelle série, enfin c'est plutôt une mini-série, hein, parce que la première saison ne fait que 3 épisodes, ça s'appelle Black Mirror, ce sera diffusé sur France 4 jeudi prochain à 22h35. Alors, Black Mirror.
Radio FMR présente le supplément week-end.
Can I have a taste of your ice cream? Can I lick the crumbs from your table? Can I interfere in your crisis? No, mind your own business. No, mind your own business. Can you hear those people behind me? Looking at your feelings inside me. Listen to the distance between us. Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? Between us, can you hear those people behind me? Looking at your feelings inside me. No, mind your own business.
On Speed, Mind Your Own Business, extrait de l'album Chicks on Speed Will Save Us All. Et évidemment... Ouh, bonjour Thomas. Et qu'est-ce que tu me fais là?
Bonjour.
Oula, oula, le son est un peu bizarre d'ailleurs. Bonjour Duce.
Bonjour.
Ça fait 3 semaines, 4 semaines de blanc. Hein.
Ouais.
Ouais, on est désolé. On avait chacun nos occupations de tous côtés et chacun était plus ou moins débordé. Donc du coup, on rappelle quand même qu'on est en bénévole. Donc ça ne marche pas tous les jours comme on le souhaite pour faire l'émission le samedi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a Ultimatum en insert téléphonique.
Oui, bonjour.
Voilà, avec un daiquiri entre les doigts de pied, tranquille. Et
entre les doigts de pied, carrément.
Bah ouais, non mais tu es très agile de tes pieds quand même. Et qu'on a heureusement du sport qui est sur le plateau et ouais. Tranquille, cool, super. Bref, on a une actualité qui est extrêmement chargée, évidemment, puisque donc on n'était pas là pendant un bail, donc on a squeezé la moitié des news. Rapidement, dans l'agenda, juste pour signaler que aujourd'hui il y a une séance dédicace à la librairie BD La Petite Rivière, mais là malheureusement je l'ai pas noté dans les temps. Du 29 mai au 1er juin, c'est la semaine prochaine, il y a le 5e édition du Toulouse Hackerspace Festival THSF.
Voilà,
non, c'est pas festival. Non,
c'est ça que ça veut dire.
Non, le F, c'est pas festival, je me plante en plus. Et d'ailleurs, normalement, on sera en direct la semaine prochaine. Et je compte bien évidemment sur mes comparses pour me faire fausse. Oui, bon, en fait, pour vous barrer, quoi.
Non, mais t'en fais pas.
Non.
À partir du moment où on peut venir avec les enfants qui foutent le why et tout, quoi, de toute façon, c'est bon, y a pas de problème.
Crois-moi avec les punks chiens qui a un mixeur Myris, il y a de quoi s'amuser. Et d'ailleurs, en général, en tout cas, moi, je m'éclate comme un petit fou et un petit forcené. Jusqu'au 22 juin, c'est le Festival International d'Art de Toulouse, ex-printemps de septembre. La radio intervient, il y a des interventions dans les impromptus de 12 à 13 grâce à Kinou qui nous est de retour. Donc, on en est tous super heureux. Le programme du festival est sur toulouse.artfestival.com. Et c'est en nocturne ce week-end et le week-end prochain, donc aller visiter les musées de nuit et tout ça, c'est plutôt intéressant. Le week-end des curiosités en ce moment au Bikini, et ils ont diffusé hier au Bikini le film Drive avec une bande-son de DJ No Breakfast. Breakfast. Alors Antoine va encore me massacrer si je massacre son pseudo, hein, comme d'hab. Qui, à ce qui paraît, était vraiment bien. Donc je ne sais pas puisque je n'y étais pas. Voilà. En tout cas, ceux qui ont assisté aux répètes ont dit que ça valait vraiment le coup. On a une programmation principalement BD, principalement comics aujourd'hui. Ça, je dirais même que c'est plutôt en cap ou avec des loups.
Ouais, moi je dirais plutôt Furiously British.
Ouais, c'est vrai, tiens. C'est vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, on va de suite balancer, mon Dieu, mais je crains bien qu'on va balancer les news, mais d'abord un petit jingle. Quand tu veux. Chanter le jingle parce que Thomas n'a pas de retour.
J'avais pas remarqué là, mais ça fait que c'est vachement wagnérien, hein, quand même. Hein.
Ça tombe plutôt bien puisqu'on va parler de la disparition d'un. On va parler de la disparition d'un auteur majeur, je vais dire, du cinéma, mais pas directement, pas un réalisateur, pas vraiment un scénariste, pas un acteur, en tout cas. Plutôt un décorateur et un décorateur de talent.
Moi, je dirais un peintre.
Du sport dit un peintre. Ultimatum, bah, au départ, de quoi
oui.
Tu relances
Ouais, il a fait plutôt des peintures, oui, on va dire peintre-décorateur. Ouais. Peintre-décorateur avec une gueule pas facile, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Donc.
Non, déjà, le gars, il avait pas besoin de peindre, il faisait déjà peur tout seul.
Oui.
Ça, il y peut rien. Hein.
Oui, bon, ça, c'est eu délit de faciès. En Suédie, bon, Geiger nous a quitté à l'âge de 74 ans. Et il était suisse, merci Duss. Très tôt, il a toujours été...
Seulement.
Il a été fasciné, je vais dire, à la fois par Lovecraft, par les créations, je vais dire, fantastiques, surréalistes. Il a étudié le dessin industriel et l'architecture à Zurich et après avoir été décorateur d'intérieur, ce qui veut dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout hein, de ses études d'architecture. Il est devenu artiste, il a fait réaliser différents courts-métrages documentaires et en parallèlement, il commence à dessiner ses étranges visions fantasmagoriques et cauchemardesques qui mêlaient l'organique et le mécanique. Il a créé vraiment un style à lui qui s'appelle le biomécanique. Et à partir de 75, il va être remarqué par un scénariste fou furieux qui voulait adapter un célèbre roman de SF. Ultimatum à toi.
Oui, bah, il est connu surtout pour avoir... là, c'est bon, on peut aller entrer dans le vif du sujet.
Oh oui,
il est connu surtout pour avoir créé tout le bestiaire lié au premier film Alien de Ridley Scott, qui est donc le facehugger, le space jockey, les décors en forme de phallus, qui reprend également la boîte crânienne de l'Alien, qu'on appelle le xénomorphe. C'est lui aussi, si on sort de l'univers Alien, qui a aussi créé la mutante. Le design de la mutante, qui est un film un peu moins avouable, mais quand on a vu certaines scènes avec Natasha Henstridge, on change d'avis très rapidement. Je pense que du sport, on ne le contredira pas.
Tu penses qu'il était la sculpture derrière? Non, pas totalement.
Pas
l'actrice.
Pas la sculpture, mais à la peinture, ça c'est sûr, oui. Ouais. Il faut savoir aussi que son design a également inspiré la Batmobile du très oubliable Batman et Robin, donc c'est le numéro 4 réalisé par Schumacher, un film qui n'existe pas d'ailleurs. Mais voilà, donc s'il y en a qui sont passionnés de l'histoire de la Batmobile, vous pouvez voir le design de Giger qui a inspiré l'espèce de forme mollusque de la Batmobile. Et ça fait vachement bizarre de parler ça alors qu'il y a eu le Tumblr de Nolan qui est passé après, mais bon.
Oui, forcément. Il a aussi fait des portfolios avec différents artistes. Il a créé deux jeux sur PC CD-ROM dans les années 90, à une époque où le CD-ROM était un support extrêmement luxueux et du coup qui convenait totalement à son style graphique. C'était deux jeux qui étaient extrêmement malsains, vraiment de fantastique, horrifique, où il excellait parfaitement. Asher Geiger a aussi designé plusieurs bars, dont un en face du musée qui lui est consacré à Gruyère, ensuite en Suisse. Gruyère qui est vraiment le village médiéval, etc. Donc vous imaginez, hein, c'est suisse, c'est très beau, etc. Ouais, et en plein milieu, tu as ce truc organomécanique qui est vraiment étrange et bizarroïde. Sachant que Geiger ne vivait pas à Gruyère même, et il était plus du côté de Zurich. Il a dans son jardin, il a créé un décor où les plantes se mêlent à des sculptures vraiment extrêmement étranges. On a tweeté un Tumblr justement qui regroupe des photos justement de sa maison personnelle. Et c'est là où Manuel Malin d'ailleurs a fait une œuvre vidéo qui s'appelle Biomécanique, parce qu'il a été invité. Geiger ouvrait de temps à autre justement sa maison. Alors, des fois à des invités.
Je sais pas pourquoi tu dis Geiger, parce que c'est Giger quoi.
Bah oui, mais je sais pas. C'est à cause d'avoir. J'arrêtais pas des. Bah oui, mais j'ai trop écouté d'interviews en anglais de lui, donc c'est ça le problème. Ça aide pas, merci.
Enfin, Gruyère, on peut dire que c'est également, c'est du côté de Lausanne, c'est un peu au sud de Lausanne, hein, donc c'est plutôt du côté de la frontière française, quoi. Donc c'est pour ça, si vous avez envie au cours d'un de vos déplacements d'aller voir justement quoi ce truc à Gruyère, y a pas de problème. C'est pas un grand détour quoi que de passer par patelin en Suisse quoi pour aller.
Pas du tout, c'est à 30, si je me souviens bien, c'est à 30 minutes depuis Genève. C'est-à-dire depuis la frontière française à environ 2 heures, oui. Parce que si vous avez jamais traversé Genève, croyez-moi, il y a beaucoup d'embouteillages.
Il vaut mieux traverser plus haut. Il y a moins de contrôles.
C'est pas que les contrôles. D'ailleurs, ils y sont plus puisque ils ont espace Schengen, on peut y aller sans passeport.
Il y a quand même des contrôles.
Bon. Tout ça pour dire, Giger, tu nous manques. Et tu nous manques et nos cauchemars ne s'en porteront pas mieux sans toi. Voilà.
Ouais, je voulais ajouter quelque chose de la vite fait quand même, quoi, parce que bon, bah, comme moi j'ai quand même une demi-génération de plus que vous.
Ouais, il avait participé à Métal Hurlant, il me semble.
Justement,
plus d'une fois,
c'est
oui.
ce que je voulais dire, hein, c'est que nous, bon, en tant que plus vieux, quoi, on va dire, on avait découvert Giger, quoi, qui avait été plus ou moins adoubé par les grands de la BD française, hein, Druillet, Meubius et tout ça, quoi, et qu'il avait fait justement participer à plusieurs moutures de, enfin, plusieurs numéros de Métal Hurlant. On avait pu découvrir Giger qui avait également, qui faisait des expos, hein, c'est-à-dire que on a dit en préambule que c'était un artiste peintre, un peintre décorateur, on va dire, mais c'est un type qui faisait des expos comme n'importe quel artiste peintre ou artiste contemporain, quoi. Donc, rest in peace, Hans.
Merci. On reste dans le cinéma. Ultimatum est allé voir un film.
Allô ?
Ouais, ouais, t'es là.
Ouais, bon, ben, j'ai décidé de vous parler d'un film bien trop bourrin pour être passé sous silence dans notre émission, parce que ça fait toujours plaisir. Je sais qu'il y a des fans purs et durs de films bourrins qui nous écoutent, donc j'allais vous parler aujourd'hui du film Sabotage.
Ah oui, je crois qu'il a été sélectionné à Cannes.
C'est ça, oui. Non, non, c'est pas celui-là. C'est... Non, non, le... tu fais peut-être référence au passage très remarqué des acteurs de Expendables 3 sur un tank.
Ouais, à peu près, oui. Vas-y, je t'en prie.
Alors, Sabotage, donc c'est le fameux film, vous pouviez pas le rater, je parle au passé parce qu'il est peut-être plus à l'affiche.
Non.
C'est que je regarde ça pendant que je vous fais la chronique. Avec Schwarzy sur l'affiche, avec l'arrêt sur le côté, donc rien que pour ça, j'ai eu envie d'y aller. Donc Sabotage, c'est un film réalisé par David Ayer, qui a réalisé End of Watch, mais qui est surtout connu pour être scénariste de films bien burnés et qui explore un peu le passage des deux côtés de la ligne jaune, surtout dans des polars bien sombres comme Training Day, SWAT, U571 qui était le film de Jonathan Mostow, très très bon sur les sous-marins, Dark Blue bien sûr, et ainsi que Fast and Furious. Voilà, donc c'est un gars qui fait quand même des films qui sont pas, on va dire, c'est pas des héritiers de la nouvelle vague. Hein.
Il a pas fait un Blade aussi?
David Ayer,
Ou je confonds avec Goyer, peut-être.
Ah non, tu parles peut-être du réalisateur du Blade 3,
ouais.
Qui est David Goyer.
Goyer, voilà, ouais, c'est ça, je confonds.
Excuse-moi. Voilà. Bon, ça finit par hier aussi, c'était pas loin. Alors le casting, on va en reparler après, mais il faut savoir ça quand même, que c'est un casting avec pas des inconnus quand même. Donc outre Schwarzy, on a Sam Worthington, Terrence Howard qu'on avait pu voir dans le rôle de Jim Rhodes dans le premier Iron Man, Harold Perrineau bien sûr, hein, qu'on avait pu voir dans Matrix 2 et 3, mais surtout c'était l'handicapé dans Oz. Max Martini, alors Martini, oui, bon, ça vous donne envie de peut-être vous replonger dans la boisson, mais c'est surtout le gars qui incarnait le père australien dans Pacific Rim. On a également Josh Holloway, qui incarnait Sawyer dans Lost, et Mireille Enos et Olivia Williams. Alors, ce qu'on peut dire déjà sur le film,
c'est que bon, David Ayer, on l'a dit tout à l'heure, qui a plutôt une étiquette de metteur en scène de polar un peu, qui surfe un peu sur les à mi-chemin entre la légalité et l'illégalité. Donc là, c'était donner un nouvel éclairage à Schwartzy en le mettant dans l'univers ripou de David Ayer. Alors, est-ce que vous mettez bien dans la tête faire incarner un flic ripou à Schwartzy? Parce que bon, un acteur pour incarner un flic ripou, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu de nuance dans son jeu d'acteur. Donc,
il a été politique, donc forcément. Non, pardon, oui, désolé, je sais, on vote ce week-end, j'ai pas le droit de parler là-dessus.
Bah, le truc, c'est que il a beau avoir été politique, Schwartzy reste quand même assez limité dans son jeu d'acteur, à part, évidemment, quand il fait du Schwartzy, c'est-à-dire serrer la mâchoire, fumer des cigares, ou qu'il soulève des haltères.
Ah, mais je crois, Thomas, tu as oublié qu'il était capable de tourner des comédies telles que Un flic à la maternelle, où, justement, il a un registre un peu plus étendu.
Je m'en souviens, je sais qu'il peut faire rigoler. On parlera tout à l'heure de Last Action Hero et de True Lies, mais il faut dire quand même que c'est dans ces films-là, on peut pas forcément se figurer qu'il a une palette assez étendue. Alors, après vous allez me dire, bon, alors certes, un gars qui fume vachement bien le cigare et qui serre très bien la mâchoire et qui soulève très bien les haltères, l'intérêt pour un metteur en scène de savoir ça sur son acteur, c'est qu'on peut lui faire dire des répliques pendant qu'il fume le cigare, pendant qu'il soulève les haltères ou pendant qu'il serre la mâchoire. Et ça, c'est très bien, parce que là, c'est ce genre de scène dans Sabotage, alors, évidemment, elles sont mêlées à d'autres, notamment une fameuse scène où le personnage de Schwartzy au début du film est mis au placard, alors tu le vois avec ses gros doigts en train de taper au clavier devant un écran de PC, c'est à mourir de rire, parce que tu te dis que forcément il a pas fait ça toute sa vie, et puis t'as du mal à l'imaginer devant à envoyer des mails chez lui, bon enfin bon bref. On va quand même faire un petit tour sur le scénario du film, puisque j'en ai pas encore parlé. Donc ça raconte l'histoire d'un groupe de soldats d'élite de la DEA, donc c'est la brigade anti-drogue, anti-stupéfiant, qui prend d'assaut un repère d'un cartel de la drogue. Bon, jusque-là, vous allez me dire, c'est basique. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils braquent les 10 millions de dollars en liquide pour se les garder pour leur pomme. C'est là que ça commence à devenir intéressant et que David Ayer commence à mettre sa patte. Mais une fois sur le point de récupérer le magot après l'opération, ils s'aperçoivent qu'on leur a piqué le butin, donc ils sont un peu pas contents. Et puis vu que ce sont tous des gros bras avec la mâchoire carrée comme Schwartzy, on voit qu'ils sont pas contents. Ensuite, ils sont suspectés forcément par la DEA, parce que même s'ils ont provoqué un incendie, ils voient qu'il y a des billets qui manquent. Alors ils sont interrogés, ils sont mis au placard pendant 6 mois, c'est là donc qu'on a cette fameuse scène inénarrable où Schwartzy tape au clavier, rassurez-vous, ça dure pas longtemps. Après, ça se corse parce qu'il y a chaque membre de l'équipe d'élite qui se fait dégommer l'un après l'autre. Alors on se dit que le cartel est peut-être derrière tout ça, à moins que quelque chose dans le film nous laisse à penser que le danger viendrait peut-être de l'intérieur, mais ça, je ne spoilerai pas le film. Alors, on va peut-être chercher le traître, on va peut-être chercher la taupe, vous verrez. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est surtout la gratuité des scènes, alors notamment sur la violence. Alors, dans le dernier acte, on a un festival de victimes innocentes qui s'écrase sur le pare-brise, donc forcément, il fallait peut-être montrer que la bagnole placement produit du film pouvait faire fonctionner ses essuie-glaces. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait s'écraser des victimes innocentes dessus. Des punchlines, des scénarios qui sont écrits par un gars qui, on voit qu'il a abusé du Red Bull et des cigares, parce que j'ai noté quelques répliques comme « Ouais, on va buter ces enfoirés, mettons-nous en tenue, après on va aller bouffer ». Je me suis retourné par mon voisin, on se dit « Ah, ben ils sont vachement creusé la tête pour écrire les scénarios, dis-moi ». On a des meurtres gore à la Seven, bon ben là c'est pour la touche un petit peu bloody. On a des plans super gratuits. Alors figurez-vous qu'il y a une fliquette en fait dans le film qui enquête, une femme d'âge mûr, ben oui forcément, pour qu'elle soit un peu raccord avec le casting, avec les veines saillantes des mâles. Et donc la fameuse fliquette, alors on va pas dire que c'est une fliquette rock'n'roll, mais elle trouve quand même le moyen à un moment donné pendant l'enquête de se faire un petit bain de minuit à poil dans sa piscine, qui est totalement pas raccord avec le personnage, mais qui a le mérite de voir Schwartzy débarquer la bouche en cœur en t-shirt en disant « Hey, je sais où vous habitez maintenant ». tu te dis qu'il y a une scène entre les deux qui est pas mal, bien tournée, avec des plans qui évitent de montrer la femme à poil, jusqu'à un moment donné où il y a une plongée, alors je parle pas de la plongée dans la piscine, mais du cadrage, qui permet d'avoir un nouvel éclairage sur l'anatomie féminine de l'actrice. Alors là, tu te dis, mais pourquoi tu vois très bien qu'elle est nue depuis le début, mais c'était des plans de loin, et là, t'as d'énormes gros plans sur sa poitrine, tu dis, ah, bon, ok, le mec de la seconde équipe s'est fait plaisir, je sais pas ce qui s'est passé, il y a des trucs qui sont bizarres dans le film. Troisième point, le gros point négatif du film, c'est que pour un film où les membres du gang d'élite de la TEA au départ auxquels tu es censé t'identifier, bah, ils se sont dégommés les uns après les autres, mais comme ils sont à peine esquissés, tu t'en fous complètement. C'est-à-dire que les gars, en fait, au début, tu vois que c'est des bourrins qui aiment la bière, qui font que des blagues masochistes. Des blagues machistes, pardon, et tu vois que, ben, en fait, tu t'en fous parce qu'ils commencent à mourir, et ils ont eu trois scènes de dialogue avant, donc l'équilibre est pas tip-top non plus, donc ça, c'est le gros déséquilibre du film. La nana de l'équipe, alors tu te dis, bon, la nana, c'est un peu la Vasquez de Aliens Le Retour, tu vois, c'est la nana qui est plus masculine que les mecs, qui va être super forte, qui va défendre la gente féminine dans ce film super burné.
Ouais, en fait, c'est une constante dans la plupart des films de Schwarzenegger où il y a un rôle féminin.
Exactement, tu penses à Jamie Curtis, à... oui, ouais, tout à fait. Sauf que la nana, elle est aussi élégante qu'une salle de vomi. Donc tu te dis, c'est super, elle est maquillée comme une voiture volée. Même elle est super moche, en plus la nana, donc voilà. Alors déjà, un déséquilibre total.
Attends, je sais que tu réponds par l'affirmative ou par un négatif, puisque on est au téléphone, donc elle ne vous entend pas. Ta nana vient de rentrer dans l'appartement ?
Non.
Bon, d'accord.
Voilà. Voilà. Alors, par contre, le gros point positif du film, et là, je serai catégorique dessus, on peut aller voir le film pour ça, c'est l'inventivité capillaire. Parce qu'il faut savoir que ce casting de mâles qu'on a pu voir un peu ailleurs, je vous ai décliné un peu leur CV, en fait, ils sont méconnaissables. T'as Sam Worthington qui s'est fait une espèce de boucle de guitariste de musique grunge, il est complètement rasé au-dessus. T'as Josh Holloway, il a soulevé de la fonte pendant 6 mois, et donc il s'est fait des espèces de dread dans les cheveux. Schwartzy, on a parlé de Sarri sur le côté au début, c'est quand même une inventivité folle, le film vaut pour ça aussi. Donc c'est vrai que cette inventivité capillaire, des barbes, des tontes, des dreads de partout, là t'as un peu les yeux qui saignent au début, tu te dis « ah ouais quand même hein. ». Mais voilà, c'est ce que j'ai retenu du film, donc Sabotage. J'étais allé avec Eddie d'ailleurs qui était venu plusieurs fois dans Super Mario Weekend, qui m'avait dit ouais, en fait c'est un film qui est vraiment très très gratuit, mais par contre c'est l'un des meilleurs films de vieux. À entendre par là les films qui ont été tournés avec Stallone et Schwartzy suite à au retour gagnant de Stallone après les derniers Rocky, le dernier Rambo. Donc bon, Schwartzy qui fume le cigare, qui soulève des éthers, un petit peu dans un rôle un peu crépusculaire quand même, parce que tu vois que le personnage a un petit peu de background derrière, sa femme et sa fille ont été torturées et butées sous ses yeux, donc le mec, tu vois qu'il est un peu revenu de tout, mais c'est pas du Clint Eastwood non plus, hein, faut pas non plus rêver. Voilà, Sabotage, si vous avez l'occasion de le voir, ça vaut pas le coup d'aller au cinéma, je vous rassure. Donc un petit film maté à 23h avec une petite bière à côté, consommé en modération, et un peu des chips à côté ou du guacamole, ça suffit amplement. Sabotage de David Ayer. Du sport, je te donnais envie de le voir ou pas?
Ouais, mais je voulais aller le voir en fait, mais on s'est décidé pour un autre film, quoi. Voilà, tout simplement, quoi.
Ah, t'as vu quoi à la place?
Eh ben Godzilla. Mais rigolez pas, parce qu'il est vachement bien ce film en plus, quoi. Il est excellent, quoi, ce film, quoi.
Le donc, même genre monstre sacré, quoi.
Ah non, mais là vraiment.
Voilà,
quoi,
exactement.
Là, tu es pas allé le voir encore, Godzilla.
Alors, je suis pas encore allé le voir et j'ai pas encore vu X-Men.
Bah X-Men il est sorti mercredi là, hein, donc t'as encore le temps. Mais vas-y, hein, vas-y à Godzilla quoi, tu vas vraiment kiffer quoi, à mon avis. Si tu connais un petit peu l'histoire de Godzilla et tout ça, si t'as vu les vieux Godzilla et tout ça, tu vas t'y reconnaître, il y a pas de problème parce que c'est la même chose.
Ok.
J'ai envoyé en semaine une photo assez étonnante. C'est sur un compte Twitter qui s'appelle Backstage ou History in Pics. Je sais plus laquelle. Et c'était une photo en fait des trois acteurs qui ont incarné Godzilla quand c'était produit par la Toho. C'est assez
fun. On les reconnaît aujourd'hui.
Toho, pardon, je dirais. Enfin, aujourd'hui, on les reconnaît pas. Hein. Ils étaient sous un truc en caoutchouc.
Ouais.
Oui, non, c'est une blague, hein. C'est une blague.
Ah bon? Je suis pas sûr. tu serais pas en train de saboter l'émission, toi, là?
Non. Mais il a pas posé la question qui tue à propos de Godzilla, à savoir, mais est-ce que le Godzilla dans ce film, c'est le même? Et ouais, on retrouve le vrai Godzilla, l'original, la vraie tronche, le vrai personnage qu'on connaissait au début. Sauf que là, quoi, c'est quand même vachement mieux au niveau technique. Hein, y a pas de problème, quoi.
On en reparlera prochainement. En attendant, alors,
j'entends assez difficilement du sport et j'avais vu dans le trailer qu'ils avaient utilisé la musique, le vieux score de Godzilla pour le trailer version japonaise. Et est-ce qu'on retrouve cette musique-là dans le film?
J'ai pas fait gaffe. Franchement, j'ai pas fait gaffe. Hein.
Bon,
mais
okay.
Ne serait-ce que parce que Juliette Binoche, tu la vois pas longtemps, ça vaut son pesant de cacahuètes. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, quoi. D'accord ?
Ok.
Voilà. Sabotage, est-ce que tu peux redonner les éléments du film ?
Sabotage de David Ayer avec Schwarzenegger, film bourrin et L'arrêt sur le côté, qui est encore certainement sur beaucoup d'écrans.
D'accord. Et de suite, Beastie Boys. Je vous laisse deviner quel titre. Sabotage, bien sûr.
Ah, ah.
Et il est monté, il a tapé une bavette et résultat, voilà, il redescend pas à temps. Donc on est censé enchaîner avec les chroniques BD. Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end numéro 385 et je sais qu'on n'a pas été là pendant un petit bail, notamment pour quelques opérations spéciales. Entre autres, il est 12h34. Le café ou la... Non, on va avoir des emmerdes, ça va se voir à l'écran. Bon, je te disais, ce serait bien de commencer par Marc Millar.
D'accord, ok.
Tu fais deux Marc Millar, moi j'ai la mienne, et puis ensuite la suite, oui, parce qu'il était en train de discuter avec les mecs qui passaient, prendre l'équipement pour aller direct en extérieur, et puis voilà, hein, du coup, on n'a pas le temps de faire le planning à voler.
Ok, bon, on va commencer par du classique, avec Kick-Ass 3.
Ouais.
Première partie du dernier acte. Ça s'appelle Civil War. Donc c'est le titre de...
C'est une référence. Sachant qu'il y a plein de références dans Kick-Ass, c'est une référence, c'est pas possible autrement.
Ouais, ok. Alors, remettons un petit peu les choses dans leur contexte. La fin du Kick-Ass 2, en fait, Motherfucker et sa bande de super-vilains se font dégommer par Kick-Ass et sa bande. Hit Girl en particulier. Mais... À la fin de Kick-Ass 2, ce qui se passe, c'est que bon bah s'ils s'en sortent vainqueurs et libres, bah Hit Girl, elle, eh ben elle est chopée par les flics, donc elle part au trou. Et ce Kick-Ass 3, bah il s'ouvre sur le fait que Mindy, c'est son nom hein, de Hit Girl, c'est son prénom. Mindy est au trou et Dave Lizeski, alias Kick-Ass, eh bien se dit que bon bah c'est il faudrait faire quelque chose, il faudrait la sortir et tout ça quoi. Toujours, il est toujours avec son groupe de super-héros entre guillemets qui sont appelés Justice Éternelle. Rappelez-vous Kick-Ass 2 pour ceux qui l'ont lu. Et les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'avait prévu. Faut dire que aussi bah Kick-Ass au départ, c'est quand même une bande de bras cassés hein. C'est-à-dire ils ont pas de super pouvoir et tout. Bien que Dave Lizeski avec Mindy, Hit Girl, eh bien, a quand même fait pas mal d'entraînements sportifs, entraînements de sport de combat, entraînements pour manier des armes. Quoique lui, il aime pas trop ça, quoi. Il préfère ces deux espèces de bâtons qui sont sa marque de fabrique et sa marque quand il a des gens.
Oui, ça fait.
Hein voilà. Ok, t'as compris, quoi. Mais là, bon bah ok, hein, Mindy, elle est au trou, en plus à l'isolement, hein, dans une prison de haute sécurité, donc c'est un petit peu coton de vouloir la faire sortir. Alors au départ, elle se dit à l'intérieur de sa prison, bon bah pas de problème, hein, Dave, il va me sortir de là. Enfin bon, on a déjà fait des trucs vachement plus énormes que ça, on va s'en sortir. Hein. Mais le temps passe. Et au bout de 6 mois, elle commence à se dire dans sa prison, bon bah ok, c'est quand même un gros con, il me fait chier. Et alors qu'ils ont essayé, mais bon, ils ont essayé dans la mesure de leurs moyens, hein, la Justice Éternelle, quoi, le groupe de super-héros, quoi. Mais ils sont pas arrivés, quoi, bien sûr. Hein. C'est un petit peu, on va dire, c'est à se pisser dessus de rire la façon dont ils essayent de s'introduire dans la prison. Là, j'ai plus rien, là. Ouais, voilà, voilà, c'est mieux.
Pardon, excuse-moi.
Et donc, Mindy, ce qu'elle va faire, va se dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, elle va essayer de sortir de la prison à sa façon, on va dire. Est-ce qu'elle y arrive? Ça, il va falloir que vous lisiez hein, la première partie de Kick-Ass 3. Mais en tout cas, je peux vous dire que la façon dont elle prend le contrôle de la prison, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, un petit bémol, après... La lecture de Kick-Ass 1, puis de Kick-Ass 2, puis du prélude Hit Girl, eh bien on se dit que Marc Millar a poser au fur et à mesure la barre toujours un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. On s'est dit à la fin du Kick-Ass 2, ça va être très difficile. Et là, ben, ce Kick-Ass 3, la première partie, hein, le Civil War, eh bien, est un petit peu en deçà. Un petit peu en deçà, surtout au niveau de l'action. Hein, c'est quand même assez linéaire, il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas de renversement comme ça quoi dans l'action. Non, c'est assez linéaire pour l'instant. Et on se dit, je me dis que ce Kick-Ass 3, c'est un petit peu, on va dire, l'apéritif pour nous préparer le Kick-Ass 3 numéro 2, qui sera le dernier, donc, en principe, si Mark Millar ne change pas d'avis d'ici là, et qui sera certainement un petit peu plus rentre-dedans, à mon avis. Je vous passe les détails sur la famille de la mafia qui essaye de reprendre le contrôle, hein, parce que Chris Genovese, alias Red Mist, quoi, c'est-à-dire le super vilain qui est dès le début dans Kick-Ass, quoi, hein, au départ c'est le pote de Devil's Esky, puis ensuite on se rend compte que ça le fait pas, et là la mafia est de nouveau encore un petit peu présente, et là, qui dit mafia dit corruption, donc dit corruption de flics. Et quand on sait que le beau-père de Mindy, Marcus Williams, est un flic, que peut-il se passer? Ça, il va falloir lire le Kick-Ass 3, donc de Mark Millar et John Romita Jr. Civil War, hein, c'est paru chez Fusion Comics. Bon, au niveau du dessin, au niveau du graphisme et tout, quoi, il y a toujours rien à dire, hein. Romita,
ça tabasse, quoi.
Ouais. Bien que
la couleur gicle, l'action est brusque.
Les
craquements d'eau.
Il l'a fait un petit peu plus classique, on va dire. Il y a pas de double page, il y a pas de pleine page, de dessin en pleine page ou en double page, quoi, dans ce Kick-Ass. Très rarement, une ou deux, quoi, c'est tout. Alors qu'on avait eu l'habitude dans le 2 et même dans le 1 d'avoir justement plus de pleines pages comme ça, où on pouvait vraiment apprécier le graphisme de John Romita. Rassurez-vous, c'est quand même vachement nickel. Donc, Kick-Ass 3, Mark Millar, John Romita Jr., c'est sorti là cette semaine, hein, de toute façon, quoi. Et on a la chance que pour Kick-Ass, la sortie soit la même dans les autres pays, quoi. C'est-à-dire que c'est une sortie simultanée
ouais.
Aux États-Unis, en Angleterre, en France, c'est-à-dire les pays des comics, quoi, on va dire. Eh bien, c'est sorti le même jour, quoi. Ce qui n'est pas le cas d'autres sorties de Mark Millar, parce que par exemple Super Crooks, que je vous avais chroniqué il y a bien un an, tranquille, en version anglaise, mais vient de sortir maintenant, en version française.
On a connu pire. Hein.
Oui, on a connu pire. On a attend encore d'autres pire, titres, hein. Mais enfin bon, ça la fout un petit peu mal. Et je vais aller un petit peu plus loin, mais dans un autre domaine, dans le domaine des livres polars. Si ne vous faites pas planter, si vous voulez acheter le dernier Michael Connelly, qui est dans toutes les bonnes librairies en ce moment, avec le bandeau qui dit le retour de Harry Bosch, car il s'agit du bouquin. Le titre, c'est Les hommes qui tombent, mais en fait, c'est le titre original, c'est The Drop, et c'est un bouquin qui est sorti en 2011. Calman Levy va attendre 3 ans pour sortir ce bouquin, alors que depuis, Harry Bosch est passé par différents stades. Donc là, si vous suivez un petit peu quoi, la carrière de Harry Bosch à travers Michael Connelly, vous allez être un petit peu décontenancé et un petit peu perdu. Mais ça, c'est votre problème, il fallait qu'à lire les bouquins en anglais direct.
au service secret de Sa Majesté, remixé par Propellerheads. Beau cadeau, hein.
Pas mal, pas mal.
Et ça tombe bien.
Alors, ça s'appelle, et là c'est pareil, hein, ce que j'ai juste avant, à propos des sorties anglaises, puis des sorties françaises, enfin anglaises ou américaines, hein, bien sûr, quoi. Bah, des fois, il y a vachement de temps. Là, je me demande combien de temps il va falloir pour que arrive en version française ce Secret Service Kingsman, signé par Mark Millar, qu'on ne présente plus, Dave Gibbons, qu'on ne présente plus aussi, c'est le mec qui a dessiné le Watchmen, c'est juste un petit bouquin comme ça, là, quoi, entre autres, quoi. Et Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, qui est quand même le type qui nous a fait Layer Cake, au départ, qu'il a fait connaître, hein, avec le futur James Bond, Daniel Craig, et qui a fait après Kick-Ass. Donc, bah, ça paraissait un petit peu logique de retrouver Matthew Vaughn, donc réalisateur de films, eh bien, au scénario, on va dire, de ce Secret Service Kingsman, aux côtés de David Millar, de Mark Millar, avec Dave Gibbons, donc, qui nous fait les illustrations. Alors, c'est quoi? Bah, c'est simplement un très très bon bouquin d'espionnage. C'est la façon qu'a Mark Millar de revisiter un petit peu le mythe de l'agent secret britannique, James Bond, bien entendu. Et là, eh bien, c'est assez rigolo parce que cet agent, son nom c'est Jack London en plus. Déjà, quoi, on se dit bon, bah ok, allez-y les gars, pas de problème. Alors, l'histoire elle est très très simple. Hein. C'est un bouquin qui se lit comme tu pourrais regarder un James Bond. C'est-à-dire que bon bah t'as une scène d'action tout au début qui est vraiment bien pétante à fond les manettes.
Ouais.
Après, eh ben on pose les bases de l'histoire. Et après, bah une fois que le but, le target est en vue, à savoir où est le super vilain, le méchant, eh bien on essaie de le dégommer. D'accord ? Sauf que pour Mark Millar, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je veux pas copier Ian Fleming tout simplement, tout bêtement, non. Et là, eh bien, en fait, Jack London, donc, qui est le meilleur agent du MI5, qui a un license to kill, bien sûr. Ça, bah, c'est tous les petits jeux de mots, tous les petits trucs. Allez, regardez et tout, quoi. Bon, on a des super références quand même, quoi. Eh bien, ce coup-ci, bah, il a fort à faire parce que il y a un type un petit peu barjo qui s'est décidé à il a compris que bon il y avait trop de monde quoi que sur Terre et que donc il fallait éradiquer pas mal de gens.
Bon, alors qu'est-ce okay. qu'on fait?
Alors qu'est-ce qu'on fait?
On explose, alors, on extermine, comme, on rend malade.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que comme lui c'est un geek fini, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire bon bah je vais mettre une partie de la population qui est non négligeable et puis qui a des trucs à dire, je vais la mettre de côté et tous les autres, bah, ils se dégomment, ils vont être dégommés, quoi. Je vous laisse deviner comment ils vont se faire dégommer. Enfin, quel est le projet, quoi, de ce super vilain. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dès le départ, eh ben, la première scène d'action, en fait, quoi, on est en Suisse, on est du côté de Zermatt, quoi, c'est-à-dire station de ski, station de ski en Suisse et tout. Et bon, bah, ok, t'as des mecs, on va dire, bon, bah. Des espèces de miliciens ou des trucs comme ça, quoi, enfin fortement armés, quoi, qui ont enlevé Mark Hamill, l'acteur Mark Hamill. Alors on se dit, attends, quoi, c'est quand même bizarre. Bon, là, Jack London arrive et puis le sauve, bien sûr. Alors là, dans une scène James Bondienne, mais alors excellente, hein, d'abord le dégommage de tous les personnes, de tout le monde à l'intérieur de la maison, puis la fuite en motoneige, puis le saut du dessus du ravin et tout, avec le motoneige qui à la parachute et tout, quoi. Enfin bon, la totale, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Sauf que ben Jack London a également des problèmes familiaux. En effet, il a un neveu dont il ne s'est jamais occupé, mais auquel il écrit une carte à chaque Noël, chaque année. Et là, ce qui se passe, c'est que bon, bah, son neveu, en fait, est plus ou moins, on va dire, pas martyrisé, mais enfin bon, vit très mal, quoi, son adolescence. sort avec des mecs pas possibles, font des conneries comme c'est pas possible. Et là, bah, Jack London, ok, quoi, bon, bah, ils font des conneries, ils piquent une bagnole, ils vont se faire choper par les flics. Mais là, Jack London arrive au commissariat et à chaque fois peut sortir le mec et tout, genre, je montre ma carte et je dis, bon, maintenant il vient avec moi. Parce que il ouais. a tout pouvoir. Ok. Sauf que, ben, il le fait une fois, mais il va pas le faire deux fois, quoi. Mais il va essayer de sortir son neveu de son bordel, de sa vie de merde, de ses potes, de sa banlieue de merde. C'est à Peckham, donc pour les gens qui connaissent un peu Londres, c'est vraiment le trou du cul du monde, pratiquement. Et là, ben, ok, il va carrément essayer d'enrôler son neveu pour qu'il prenne sa suite.
D'accord.
Alors c'est assez rigolo quoi, parce que bon bah ça se passe plus ou moins bien, parce que bon, il repère déjà au départ que bon bah son neveu c'est pas un idiot, qu'il est capable justement de pouvoir assimiler certains trucs et qu'il a assez de capacité quoi justement quoi pour se prendre dans le truc. Et ce qu'il va vraiment très très bien faire au cours de son entraînement quoi, dans les forces spéciales et tout le bordel et tout quoi. Alors que bon bah justement il est complètement décalé. Car lui, il vient d'un quartier pourri du West End de Londres où il parle un espèce d'anglais matinée de Cockney, quoi, que tu comprends pas tout. Alors que tous ses autres collègues qui sont en entraînement avec lui sont issus de Eton, de oui, Oxford, de, la haute, de Cambridge, de la haute. Déjà, il y a un petit décalage, quoi. Mais il va montrer qu'il est capable de faire des trucs assez incroyables, quoi. Et bon. C'est assez rigolo, là on retrouve le Mark Millar. Je retrouve le Mark Millar que j'aime bien. Les nombreuses références, les vannes sur les comics, les vannes sur les geeks, sur tous les trucs et tout quoi. Parce qu'il faut savoir que le type quoi qui veut donc enlever Mark Hamill, il a déjà enlevé 8 acteurs du Doctor Who, 15 acteurs de Star Trek, 7 acteurs de ou actrices de Battlestar Galactica. Tu dis, ah, quand même, il y a un truc. Ok. Ben, quand tu sais à quoi on arrive, bah, tu dis, bon, bah, ok, quoi, les mecs, ils se font pas chier, quand même, quoi. Mais ça vaut, quand même, son pesant cacahuète, à mon avis, hein, de toute façon, quoi. The Secret Service Kingsman, de Mark Millar, Dave Gibbons et Matthew Vaughn. Alors, il y a un peu de sexe, pas trop, un tout petit peu, mais beaucoup d'action. Et là, ça dépote pas mal quand même, avec des retournements de situation et tout, quoi, dont un qui est assez énorme quand même, mais qui justifie quoi justement la qualité quoi de ce Secret Service Kingsman. Donc, Mark Millar, Dave Gibbons et Matthew Vaughn. Alors, pour l'instant, c'est en anglais, Millar World, donc édition anglaise, c'est Titan Comics. Et sinon, bah voilà quoi. Essayez de vous le procurer, ça vaut vraiment. C'est vraiment un truc à lire. Hein. C'est une adaptation de James Bond et tout quoi. La sauce Mark Millar, rien à dire quoi. Ça, c'est de la bonne mouture.
Very good. You give me so much at one time. Yes, I do.
Ouais, non, parce que vous avez pas vu le sketch, mais je disais du sport, fais gaffe, là il me reste 10 secondes de fond. Ça aurait été dommage de louper cette partie-là. Moi, je vais revenir à plus à du polar, avec, à mon sens, peut-être un événement dont on a fait, dont on a parlé sur cette antenne depuis un bail. Hein. C'est les 75 ans de Batman, du ouais. Détective justicier masqué. Donc, ça fait un bail. Et c'est vrai que en ce moment chez Urban Comics, hein, c'est quand même que chez DC hein, à l'origine, il y a des rééditions de qualité qui sont chez Urban Comics encore plus parce qu'ils reprennent en main justement, ils rééditorialisent et ils refont les traductions d'époque, ils chassent des fois quelques erreurs et c'est un petit peu plus, je vais pas dire littéraire, mais c'est un peu mieux amené.
Réactualiser, ça veut aussi dire se mettre dans le temps présent hein, par rapport à au langage qu'il y avait il y a 30 ans ou 50 ans quoi.
Ouais. Donc ce qui fait que il y a une série formidable qui est sortie il y a une dizaine d'années dont je vous ai régulièrement parlé.
Oh oui.
Il y a un bail. Et là enfin elle est rééditée. C'est une série formidable qui s'appelle Gotham Central. Le premier tome sur 4 est en cours de réédition chez Urban Comics. C'est un scénario sur un scénario de Ed Brubaker et de Greg Rucka. Un dessin de Michael Lark. À mon avis, c'est vraiment l'une des 5 séries les plus intéressantes dans l'univers de Batman, justement parce que ça ne se centre pas autour de Batman et que l'on revient, je veux dire, sur un élément un peu plus hard-boiled. La publication à l'époque dans les 2005 à 2007, si je me souviens bien, et était passé de Semic à Panini, puisque DC avait renégocié le contrat, et donc la toutes les séries DC avaient changé d'éditeur. Donc on a eu un changement de nom, on n'a pas eu tous les albums, on a eu une dernière édition qui malheureusement a eu un problème d'impression, elle est partie quand même à la vente. Et là, nous aurons l'intégrale de cette série en 4 tomes. À un prix raisonnable, vraiment raisonnable à mon sens, parce que c'est des bouquins relativement épais, le papier est correct, est plus que correct, et la série le vaut vraiment. Donc c'est chez Urban Comics, un éditeur qui quand même de ce côté-là se plie un petit peu en quatre. Alors Gotham Central, sincèrement, si je devais caractériser cette série, moi il y a un truc qui me vient immédiatement à l'idée, c'est l'ambiance est procédurale à la...
Ouais, j'allais le dire. Hein.
Law and Order, voilà, tout à fait. C'est vraiment là, ce qu'on appelle en France New York, police judiciaire. Bah là, il ne manquait que la trille. Et à mon sens, pour faire cette chronique-là, eh ben, c'était le tronton. C'est tout ce qui me manquait, voilà. Les inspecteurs des crimes majeurs ont, dans la cité de Gotham City ont été personnellement choisis par le commissaire Gordon et doivent être le corps de la police municipale la moins inefficace. Les autres sont soit des glandeurs, soit complètement corrompus, soit complètement débordés. Les pièces à conviction sont parfois égarées. Les simples larcins remontent d'un étage en prétextant qu'un soi-disant super criminel du bureau du procureur, enfin un super criminel, donc forcément c'est à eux. Le bureau du procureur maintient sa pression, ainsi que le maire pour garder son siège. Et la venue de l'IGS n'est jamais un bon signe pour les inspecteurs. Donc on suit finalement ces policiers de la des crimes majeurs d'une grande île américaine qui finalement n'est pas plus criminogène qu'une autre. Ils sont confrontés à des meurtres sordides, ils doivent composer avec la méfiance de certaines communautés, le manque de moyens et bien évidemment les droits des suspects. L'ambiance est hard-boiled, lourde, et l'occasion de retrouver foi en l'humanité est rare dans ces affaires-là. Les affaires se succèdent parfois très très vite, et dès qu'un quart est terminé, l'équipe suivante reprend ses propres enquêtes criminelles. Alors oui, on voit Batman passer, ainsi que les vilains, mais d'abord, Batman lui-même est fugitif depuis le départ de du commissaire Gordon, ce qui fait qu'il intervient relativement peu dans la série, sinon finalement comme obstacle des enquêteurs eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une histoire courte qui sera dans l'un des tomes à venir de la série, l'histoire de l'allumeuse de Bat-Signal. Quant aux super-vilains, ben, les superbes méchants sont représentés comme des criminels d'envergure. Glauque à souhait, ils ont absolument rien de risible, ils sont vraiment effrayants et totalement dérangés. Gotham Central est un excellent polar. Et finalement, les interventions finalement de ce qui fait la mythologie de Batman en termes de super-justiciers, super-héros ou super-criminels, eh ben, finalement c'est complètement accessoire. On y verrait tout aussi bien Elliot Stabler ou Olivia Benson, car Gotham Central ressemble vraiment à New York. Et c'est d'ailleurs justement le sujet de l'excellente introduction de l'auteur de Polar, Lawrence Block, dont l'introduction, la double page, vaut une lecture plus qu'attentive, car elle donne d'excellentes pistes. Et il dit d'ailleurs qu'en fait, il explique justement pourquoi Gotham Central est vraiment New York, et ça date tout simplement à la skyline. En 1939, il y avait très peu de villes qui avaient un horizon de gratte-ciel comme New York. Et surtout, c'est en référence à Edgar Allan Poe. Et là, ça a été ma grande découverte à partir de là. Edgar Allan Poe a vécu dans New York et il a créé une ville fictive, Gotham, Gothic America, qui est ni plus ni moins justement que New York. Enfin, je sais pas quel est ton avis, Luce.
Non, mais bon, il faut dire que c'est une petite période, on va dire. C'est une petite période dans sa vie où il a vécu à New York.
Tu parles de
Edgar Allan Poe, hein.
Ouais, tu parles de Poe. Attention.
Voilà, mais ça lui a pas du tout réussi. C'est-à-dire que Baltimore, sa ville natale d'où il venait, et où il est retourné, où il est mort, je crois, était un petit peu trop petite, on va dire, et c'est pour ça qu'il a été obligé de monter jusqu'à New York. Bon, Baltimore et New York, c'est pas tellement loin hein, en distance, hein, de toute façon, quoi. Financièrement, quoi, je veux dire, ça lui a pas tellement réussi, de toute façon, quoi. Par contre, je vais quand même revenir sur ton intro, l'intro dans Gotham Central, justement, quoi, ce dont tu parlais, quoi, à propos des origines du mot Gotham, enfin bon, d'où ça vient. Et donc, c'est quand même fait par Lawrence Block, tu l'as cité. Lawrence Block, c'est quand même un des excellents auteurs de polar américains, quoi. C'est lui qui a écrit, entre autres, 8 millions de façons de mourir, qui avait été adapté au cinéma, avec, je crois, Jeff Bridges dans le rôle titre, quoi, me semble.
Oui, oui, tout à fait. Bah, t'as les détails dans l'intro. Justement.
Bah reviens non, mais dans moi, le... moi, c'est de tête, hein. C'est,
Oui, mais justement, il y a introduction, sur l'auteur qui introduit, donc justement.
Ouais, ouais, enfin, non, signature. Mais Lawrence Bloch, hein, il n'y a pas de problème. Hein, de toute façon.
Il a écrit d'ailleurs quelques comics.
Il a également écrit quelques comics. Lawrence Bloch, il est également connu parce que bon, bah, c'est un auteur qui a dû composer avec un alcoolisme chronique qui est d'ailleurs qu'on retrouve d'ailleurs dans au moins 3-4 bouquins, hein, où le sujet central c'est pas l'histoire mais c'est l'alcoolisme des personnages, quoi. Alors bon bah il sait de quoi il parle, c'est un auteur qui a eu de nombreux prix, hein, je me rappelle pas comment ça s'appelle, les prix pour les polars aux États-Unis, mais enfin bon, il a eu 2 ou 3, quoi, tranquille, quoi. Donc hein, de ce côté-là, quoi, c'est vraiment du lourd, là. Lawrence Bloch, là, pff, même si ce n'est pas un nom qui est très très connu, hein, dans le polar anglais, américain, pardon, quoi, c'est quand même un type qui a beaucoup écrit dans les années 80, avant qu'on découvre un type qui allait tout exploser, qui s'appelle James Ellroy, quoi, mais qui lui vit de l'autre côté, quoi, c'est-à-dire du côté californien, quoi. Alors que Lawrence Bloch, lui, c'est un pur New-Yorkais.
Pur. Il est 13h pile sur Radio FMR. Moi, qu'un jour on vous explique, c'est que ce qu'adore me faire du sport, c'est je dis 20 secondes ou 30 secondes avant
et
le
hop,
direct.
Je me barre.
Voilà, il se barre. Ça supporte. Surtout quand je suis tout seul et que en plus la prog musicale est un petit peu à volo.
Oui.
On va continuer dans les sorties avec ma foi un dessinateur spécialiste des filles à gros lolo et des monstres.
Mais pas que.
Mais pas que.
Mais pas que, hein, parce que bon, bah, il s'agit de Richard Corben, dont...
Ah, Dieu dont... Ah bah tiens, on parlait de Métal Hurlant tout à l'heure.
Ben ouais, dont je vous avais chroniqué la première sortie. C'est aux éditions Delirium, et ça s'appelle Eerie and Creepy, présente Richard Corben. C'est le volume 2, je vous avais parlé du volume 1, bien entendu. Alors... On parlait de Edgar Allan Poe juste avant. Eh bien, dans ce volume, on sait que ben, Richard Corben et ses scénaristes, bien sûr, mais Corben aussi, hein, il avait son mot à dire sur les histoires qu'il voulait illustrer. Eh bien, il y a 3 histoires d'Edgar Allan Poe illustrées donc par Richard Corben. Il y a une des plus connues, Le Corbeau. De Edgar Allan Poe, donc qui a été adapté par Rich Margopoulos. Il y a également Le Portrait Ovale. Alors ça, c'est une histoire assez fantastique, hein. Ça, c'est là, ce que Corben en fait, c'est vraiment très très bien. Enfin, il faut vraiment lire le texte original d'Edgar Allan Poe pour comprendre vraiment tout le truc. À la limite, il vaudra mieux lire les histoires, les nouvelles concernées, quoi, avant de voir l'adaptation qui en est en fait par Corben pour bien comprendre, pour bien saisir tous les tenants et les aboutissants, quoi. Le Porteur Ovale, donc, c'est encore Rich Margopoulos qui adapte, et on a L'Ombre également, quoi. Alors là, celui-là, c'est pas un des récits les plus connus, hein, une des nouvelles les plus connues d'Edgar Allan Poe. C'est sorti dans les Nouvelles Histoires Extraordinaires, enfin c'est la version française, me semble-t-il. Mais par contre, l'histoire, elle est vraiment très très prenante, hein, et toujours adaptée par Rich Margopoulos. Par contre, on a également d'autres courtes histoires toujours qui sont plus ou moins horrifiques et tout. Mais il y a également des histoires qui sont plus SF, le science-fiction, avec des paradoxes temporels, des trucs comme ça et tout, quoi. Où, bon, bah, on était quand même dans les années 70, hein. Ce qui fait que, bon, bah, on va dire que les auteurs en avaient plus ou moins rien à foutre de savoir si ça collait, s'il n'y avait pas des trucs qui déconnaient et tout, quoi. Et à ce sujet-là, il y a justement, quoi, une histoire qui est en trois parties, qui s'appelle « Sans toi, mais en toi », première partie. Ça a été écrit par Bruce Jones, donc c'est en trois parties, et où là, bon, bah, ok, on voit que le paradoxe temporel, quoi, il marche plus ou moins bien, selon les trucs et tout, mais bon, on dirait que l'auteur, il en a rien à foutre, quoi. Bon, ça colle pas, il n'y a pas de problème, on continue, puis on avance, quoi. Et puis bon, de toute façon, ça vaut le coup, parce que à chaque fin d'épisode, il y a trois épisodes, donc je le rappelle, il y a une espèce de cliffhanger, ou de retournement de situation suivi d'un cliffhanger, qui sont vraiment très très bien venus. C'est du grand art, hein, de toute façon, quoi. Là, ce sont des bouquins qui sont couverture cartonnée, brochée. Les images, alors, au niveau des planches, il faut savoir que pour réaliser ce bouquin, eh bien, les auteurs, quoi, de cette réédition, on va dire, de cette édition, eh bien, ont accès aux planches originales qu'ils ont scannées pour réaliser ce bouquin. Il y a ouais, 40 planches originales, une quarantaine, hein, qui ont été scannées pour, à partir des planches originales, donc scannées pour réaliser ce bouquin, quoi.
On a la chance effectivement que les planches de Corben ne soient pas dispersées, contrairement à la plupart des dessinateurs.
Voilà, c'est ça, quoi. Quoique, il y en a un. Dans l'intro de José Villarrubia, il explique bien que des fois ils ont eu un petit peu de mal à récupérer les trucs qu'ils voulaient, mais qu'ils y sont arrivés quand même. Alors, il y a une préface de Philippe Druyet, hein, qui est aussi assez intéressante, parce que bon, ça remet les choses dans le contexte par rapport à la BD française à l'époque où justement, ben, ces gens-là, Druyet, toute la bande, ben, ont découvert Corben, comme je disais avant, quoi. Ces gens-là ont découvert Giger. Globalement à la même époque, quoique Corben était quand même un petit peu antérieur.
Oui, il avait commencé dans les années 50-60.
Oui, mais il a vraiment été connu pour son travail à la fin des années 60, on va dire, hein, à partir de la deuxième moitié des années 60. Mais sinon, bon, bah, ok, quoi, c'est magnifique, hein, c'est une technique, quoi, qui est pratiquement inédite, hein, on va dire, à l'époque, mais et qui est encore, bah, on se dit, bah, pff, ok, on voit très très peu de dessinateurs, quoi, utiliser ce genre de truc et arriver à faire des trucs comme ça, quoi. Si tu regardes ça là, tu comprends, quoi, tu vois.
Oui, oui. Hein, c'est, bon, c'est... Ouais.
Bon, voilà, quoi. Hein. Quand t'as des pleines pages, des doubles pages, tu dis bon, bah oui, d'accord, ok, je m'incline et puis ça vaut le coup. Donc c'est Eerie and Creepy qui présente Richard Corben. C'est le volume 2. C'est paru aux éditions Delirium. Les éditions Delirium qui nous font justement aussi, bah, on parle de Eerie and the Creepy. Ils ont également sorti un bouquin inédit de Richard Corben et Jan Stranad, qui signe trois histoires dans ce tome 2, qui s'appelle Rage More. Et c'est un petit peu, quoi, comme c'est sous-titré, quand H.P. Lovecraft rencontre Edgar Allan Poe. Et il y a également les anthologies Creepy and Eerie qui sont également sorties, donc toujours dans cette série, dans cette collection, cette maison d'édition qui s'appelle Delirium. Donc jetez-vous dessus, quoi, ça vaut le coup. Et juste une indication, quoi, quand je suis allé l'acheter hier en librairie spécialisée, eh bien le vendeur m'a dit que ah ben c'est dingue, hein, parce que bon, ben il est en vitrine depuis avant-hier, c'est-à-dire depuis mercredi,
l'office de mardi mercredi, ouais.
Depuis mercredi, ouais. Et en fait j'arrête pas d'en vendre, et puis à chaque fois je suis obligé de prendre le bouquin que j'ai en vitrine et puis de le remettre dedans, parce qu'à chaque fois, quoi, on m'en achète, quoi. Donc ça veut dire que bon, bah, ça marque quand même un petit peu, quoi. Mais vraiment, hein, si vous voulez voir du super dessin et tout, quoi, ça vaut le coup. Il y a également une histoire qui est absolument magnifique, quoi, avec justement l'histoire qui est en couverture, c'est la dernière histoire du bouquin, quoi. En fait, l'histoire d'une nana et de son mec qui est transformé en lézard. Et je vous laisse deviner, quoi, de quoi il s'agit. Et c'est vachement rigolo parce que c'est une histoire que j'avais lue à l'époque. Je sais plus dans quel truc. Ça doit être métal hurlant, un truc comme ça.
C'est un métal hurlant de début des années 80. Ouais. Il me semble, j'en ai une collection, donc je crois que je l'ai lu dedans.
Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, hein, ça c'est bien. Plus, quand je dis c'est du lourd, c'est également
oui, c'est
physiquement que je parle. Hein. C'est du
ouais,
lourd.
Ça, ça va bien faire là dans les 200 pages, hein, je pense. Soyons honnêtes.
Ouais, peut-être pas, je sais pas.
192. Quoi, je regarde pas. À vue de nez.
Il faut dire qu'il y a bon, t'as les histoires, mais après t'as des couvertures
oui,
originales de Creepy et de Eerie. Alors, ce qui est vachement bien, quoi, ça j'en ai pas parlé, mais ça vaut le coup quand même. C'est qu'au départ, alors ils ont fait ce truc-là, quoi. Sur la page de droite, ils mettent le dessin original de Corben, et sur la page de gauche, la couverture issue du dessin originel, quoi. Donc
des fois, ça a été recoupé.
Voilà. Mais bon, ouais, pour montrer un petit peu, quoi, la technique du bonhomme, et bon, ce qu'il était foutu de faire, quoi, de toute façon, quoi. Et là, bon, bah, enfin, nous, on est convaincus, hein, ça, vous en faites pas, quoi. Vous, il va falloir que vous achetiez les livres, ou juste les feuilleter, quoi, et ça va vous donner une idée, quoi. Parce que bon, peut-être qu'au niveau de la couleur, vous allez être un petit peu décontenancé, hein, parce que là, des fois dans du lourd, du heavy, du flashy, quoi. Ça, y a pas de problème, quoi. Hein, il faut dire que le monsieur, il est
on ne dit pas LSD.
Le monsieur, il est quand même de la période du flower power quand il était jeune, quoi. Donc voilà, quoi. Hein, avec tout ce que ça veut dire.
Encore une petite pause, Charlie Basset remix avec Purple Reds, History Repeating. Charlie Basset est l'une des grandes voix puisqu'elle a chanté 3 James Bond.
The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. But it don't know. It's coming or going. There is fashion, there is fat. Some is good, some is bad. And the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it repeating.
J'avais 10 secondes du sang.
Ouais, mais je m'appelle pas Usain Bolt.
Ben, forcément.
J'ai pas le même âge non plus. Alors, on continue dans les BD. Avant de parler de ce qui est certainement la meilleure BD qu'on a chroniquée aujourd'hui, sans faire offense à Grande Centrale. Vraiment. Vraiment, quoi.
Tu joues avec ta vie.
Non. Là, vraiment, je suis pratiquement sûr de moi. Avant de parler donc de cette espèce d'ovni, de ce... Enfin, je sais pas comment le qualifier, mais enfin bon, j'ai pas envie d'être trop dithyrambique, quoi, quand même. Je vais vous parler d'une exposition que vous pouvez voir et qui est vraiment très très intéressante. Vous avez le temps. Elle a lieu jusqu'au 19 août. Mais par contre, il va falloir voyager un peu, il va falloir aller à Londres. C'est à la British Library de Londres, c'est-à-dire la bibliothèque anglaise de Londres. Elle est située dans le centre de la ville, entre Euston Station et Saint-Pancras, donc pratiquement, enfin ouais, c'est au centre de Londres, et donc a lieu cette exposition qui a commencé le 2 mai et qui s'appelle Comics Unmasked, c'est-à-dire comics démasqués, ouais. Art and Anarchy in the UK. Donc il y a plusieurs thématiques, on va dire, hein, qui sont évoquées. Alors là, les thématiques, c'est pas compliqué, hein, c'est dans une petite partie de la British Library qui est quand même énorme, hein, il faut bien le dire. Et c'est divisé en plusieurs sections, on va dire, hein, plusieurs endroits qui sont plus ou moins séparés. Il y a plusieurs passages dans cette exposition. Et on a différentes thématiques. On a Mischief and Mayhem. On a To See Ourselves, on a Politics, Power to the People, Let's Talk About Sex, Hero with a Thousand Faces, Breakdown the Outer Limits of Comics. Vous avez tout compris?
Moi, traduis... c'est pas un problème, il y a les sous-titres.
Ok, bon, voilà. Et donc, on se balade dans cette expo et au fur et à mesure, on commence par le Mischief and Mayhem, on continue vers To See Ourselves. Enfin bon, c'est le truc logique. Par contre, bon, c'est uniquement consacré à des auteurs anglais. Mais c'est un historique de tout ce qu'a pu produire l'Angleterre depuis le départ.
Et c'est extrêmement large, ça, du dessin de presse aux revues SF qui étaient faites par les éditeurs puritains. C'est aller à l'underground complet avec 2080. Tous les auteurs anglais sont malheureusement partis aux États-Unis. Il y a même eu une très courte période, un peu équivalente à la période de l'association Roquin Marteau et tout ça en France au début des années 90 avec Harry Mary, les éditions Slebo Concrete et tout ça. Et après, plus rien malheureusement. Il faut dire que la bande dessinée anglaise est franchement sinistré depuis la fin des années 90, à mon grand regret, parce que c'était une scène très riche, très très pop, extrêmement proche à la fois des milieux arty, là derrière on écoute la drum and bass et tout ça, c'est pas un hasard, hein, il y avait le hip-hop et tout ça qui en était extrêmement proche, et à la fois aussi le milieu de la création audiovisuelle.
De toute façon, quand tu vois la couverture, tu reconnais tout de suite, quoi. Hein?
Oui.
Bien sûr, la couverture, c'est Jamie Hewlett.
Qui est entre autres le créateur de Tank Girl. Et je crois qu'il a fait un petit groupe à la con commercial.
C'est lui qui a surtout illustré, qui a fait les animations pour Gorillaz.
Oui, en
fait,
petit groupe à la con.
Voilà,
truc inconnu, quoi, tu vois.
Donc,
le truc qui te pète à peine dans l'oreille, tu vois, ouais. les images quand on vous dit Gorillaz, et ben c'est lui derrière, justement de ce côté-là.
Et donc Jamie Hewlett, donc vous avez le. Alors tout ce que vous pouvez voir dans cette expo, en fait, hein, ce sont des originaux. C'est-à-dire que vous avez les planches originales, par exemple couverture de Preacher. J'en passe à des meilleurs. Il y a vraiment tellement de trucs quoi. Ça commence par des personnages très anciens.
Du sport, oublié de vous dire. Voilà, effectivement, pour ceux qui n'ont pas la couleur, vous êtes en train de manquer en fait le catalogue, de l'exposition, qui est coécrit par Paul Gravitt. Qu'on salue. Hello, old chap.
Et John Harris Dunning, hein, qu'il faut pas oublier non plus, quoi. Hein. Alors c'est pas vraiment un catalogue. c'est plus l'occasion pour Paul Gravett et Harris Dunning de redéfinir quelles sont les bases de la des comics, quoi, on va dire la bande dessinée, quoi, en français, en Angleterre, quoi, depuis le début, hein, c'est-à-dire depuis pratiquement les origines. Et là, il remonte vraiment très très loin, hein, avec la tradition des gravures. Et là, c'est vraiment très très intéressant quand même, la gravure politique, la caricature. On a également une histoire énorme, nous, en France, en Allemagne, enfin dans tous les pays européens, au niveau de la gravure, de la caricature et tout ça, quoi, surtout au 19e siècle. Et là, on en apprend vraiment énormément, quoi, au sujet de toute l'histoire de la bande dessinée anglaise,
qui est venue du dessin de presse et tout ça, et ensuite du petit cul, etc. On va mettre un petit truc sympa, etc. Et c'est devenu au fur et à mesure la bande dessinée.
Oui. Et puis l'histoire, elle suit un petit peu, quoi, l'histoire qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que les bouleversements des années 60, les remises en question, et justement, quoi, les années 70 qui sont la décennie du changement et du passage à l'acte pour pas mal de dessinateurs qui décident d'essayer de faire leur truc eux-mêmes. La création de 2080, ces comics hebdomadaires, qui ont vu Alan Moore, Dave Gibbons, enfin tous les auteurs anglais que vous connaissez, britanniques que vous connaissez, sont passés par 2000 ID, continuent des fois de travailler un petit peu, quoi, pour ce comics qui a vraiment révélé tous les Anglais, tous les Britanniques qu'on connaît actuellement, quoi.
Sauf erreur, actuellement 2080, c'est plus une propriété de Marvel, hein.
Oui, mais ok, quoi, ça le fait quand même, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a que des planches originales, ça j'ai déjà dit, hein, donc ça vaut vraiment le coup, hein. On a même à un moment donné, quoi, deux pages du script d'Alan Moore pour les Watchmen. Alors donc, ça paraît un petit peu abscon pour les gens qui sont pas trop au courant, quoi, de comment ça se passe. Mais enfin, c'est, si vous voulez, quoi, c'est ce que Alan Moore envoie à Dave Gibbons pour que lui dessine les trucs, c'est-à-dire lui le scénariste, il envoie des textes, rien que des textes et tout. Alors c'est marrant parce que lui Alan Moore aime bien le surligneur jaune dans ses préconisations, on va dire, et après le dessinateur exécute d'après les préconisations du scénariste. Et là on voit vraiment, quoi, hein, il y a deux pages qui sont exposées comme ça, quoi. On voit vraiment, quoi, comment les gens travaillent, comment les scénaristes travaillent par rapport au dessinateur, parce que ils sont pas les deux dans une même pièce, non, ils sont chacun dans leur coin, puis ils s'envoient des trucs comme ça, quoi. Et depuis qu'il y a le mail et tout ça, quoi, ça va vachement mieux, quoi, d'ailleurs, hein. Ça va vachement plus vite. En tout cas, donc une expo à voir, hein, si vous êtes à Londres, si vous avez le coup, c'est vraiment très très bien, quoi, avec une entrée qui est pas trop chère, hein. Bon, payer l'entrée, mais enfin ok, quand même, ça va.
La plupart des musées sont payés en Angleterre.
C'est soit ils sont gratuits et puis tu donnes quelque chose, soit ils sont payants et ça coûte très cher. Mais là, justement, c'est entre les deux, quoi. C'est ça qui est assez sympa.
Alors, tu as oublié de dire quel musée?
Alors, je le répète, c'est donc à la British Library. Alors, l'entrée est libre dans la British Library. Par contre, la section où il y a cette expo, eh bien, c'est payant. Et ça doit coûter 7 livres, il me semble, un truc comme ça, quoi.
Donc, mais ça fait environ 10 euros, quoi.
Voilà. Non, 7, ça fait 9, quoi, on va dire.
À peu près.
À 25.
On rappelle, on avait, je crois qu'on avait passé une interview d'ailleurs de Paul Gravett, pour le bouquin consacré à Dunder, qui est justement cette série de SF qui a inspiré ni plus ni moins les époux Anderson. Les époux Anderson, c'est donc les créateurs de séries de science-fiction en marionnettes.
Les
Thunderbirds, Captain Scarlet, et qui après ont fait Cosmos 1999.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Eh oui,
Martin Landau. Martin Landau, si tu nous écoutes, Barbara Bain, si tu nous écoutes,
s'il vous plaît.
Ok, on termine par le meilleur, à mon avis, quoi. Et là, c'est une grosse surprise, c'est une découverte. Là, alors, quand on regarde la pochette, on regarde la première image, on se dit ok, ça va être du truc trash, d'horreur et tout.
Au secours.
C'est le genre de couverture qu'on a pu voir dans Stitched, Crossed également, hein, Garth Ennis et tout ça quoi. T'as là les trucs vraiment trash où bon bah il y a des démembrements, des trucs pas possibles et tout. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que bon bah on voit la partie inférieure du visage d'un mec, mais dont les lèvres supérieures et inférieures ont été arrachées quoi. Donc voyons, enfin c'est un petit peu trash.
Il a un peu trop embrassé Brejnev.
Non, non. Alors
désolé.
L'histoire elle est pas compliquée quoi, parce que bon ça démarre avec des trucs qui se passent dans un village qui est situé à l'ouest de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire juste en dessous du Pays de Galles, en fait entre la Cornouaille et le Pays de Galles. Pratiquement au même endroit que Broadchurch. Donc cette excellente série anglaise. Et ça démarre le 6 août 1945. Ah ça c'est une date dont on se souvient, pour les gens qui connaissent un petit peu l'histoire.
Nagasaki.
Hiroshima,
putain. Voilà. Ouais, Nagasaki, c'est le 18.
C'est 3 jours après, je crois.
Je sais plus.
C'est 2 ou 3 jours après, hein, Nagasaki.
Je suis désolé, hein, je suis un peu dans les vapes là. Je fais la réalisation en mode auto là aujourd'hui.
Alors, au début, quoi, donc on voit cette tronche dégueulasse et tout, quoi. Et puis, au début du bouquin, on voit un type qui se ramène dans la campagne et qui arrive près d'un petit village en se tenant la main sur la bouche, quoi. Et quoi qu'il fasse, même quand il cause, il va garder la main sur la bouche. Il va garder cette main sur la bouche pendant un certain nombre de pages, jusqu'à temps qu'il arrive et puis dans le village et qu'il commence à rencontrer des gens qu'il connaît, bien sûr, puisqu'il rentre dans son village et qu'il aille boire un coup au pub du coin qui s'appelle The Falling Moon. Très important parce que bon, ça a quelque chose à voir avec la fin du bouquin. Et c'est là, au moment où il commence à discuter avec les gens, le flic, le premier type qui le voit arriver dans le village, lui dit « Tu aurais mieux fait de pas revenir, on sait que tu es un meurtrier », un truc comme ça. On dit « Ah bon, d'accord, ok, je comprends pas trop, mais c'est pas grave, justement je suis là pour lire pourquoi tout ça arrive ». Et c'est quand il montre justement cette gueule avec ses lèvres arrachées et tout ça, quoi, c'est-à-dire bon bah vous voyez les muscles à vif, vous voyez les mâchoires hautes et basses et tout. Enfin bon, il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de peau, il n'y a plus rien.
À cette heure-ci, il y a des gens qui mangent du, il y a des gamins qui écoutent.
Voilà, et donc là, on se dit, wow, d'accord. Et après, on se demande, comment ça lui est arrivé? On est à la fin de la guerre. Bon, il est parti pendant la guerre. Il est parti, on comprend au bout d'un moment qu'il a servi dans la Royal Air Force. Normal. Et parallèlement à ça, dans le même village, s'est installé un certain docteur Julius Temple qui lui a décidé de construire une maison, mais alors pas vraiment une maison, mais une espèce d'édifice, mais complètement biscornu, zarbi, tordu, que le type qui est le chef de chantier ne comprend pas, quoi. C'est-à-dire lui, on lui dit de faire des trucs, mais il sait pas du tout à quoi ça va servir. Et il va y avoir donc, au fur et à mesure, la découverte de la personnalité de Marwood Clay, c'est comme ça que s'appelle le type qui est en couverture, donc qui est entre guillemets le héros, et ce docteur Julius Temple. On va s'apercevoir que le fait que pendant la guerre, ils aient fait des petites choses pas très catholiques, non, on peut pas dire ça, quoi, parce que c'était la guerre, donc la fin justifiait les moyens, on va dire, et bien que l'un comme l'autre ne sont pas si éloignés. Et on va se rendre compte également qu'à fouiller un petit peu à travers les personnages du village, parce qu'en fait, si on le traite de meurtrier au départ, c'est parce que quand il part de ce village, c'est parce qu'il part à la suite d'un événement dramatique. En effet, sa femme et son fils en bas âge sont morts dans l'incendie de leur maison. Et au bout d'un moment, on se rend compte que les villageois se disent que c'est lui qui a foutu le feu, c'est lui qui est coupable et tout ça, quoi. Donc le climat pas top, angoissant,
un peu délétère,
très délétère. Ouais, mais n'empêche que les gens qui l'accusent sont pas forcément blancs, tous non plus, quoi. Et c'est là que on se dit que ça commence à devenir très très chaud, quoi. Alors ça c'est la partie scénaristique du bouquin. Je vous dévoile pas plus parce que vraiment il faut lire ce bouquin, quoi, pour comprendre et puis pour aller jusqu'au fond, quoi. Et par contre là où on est là, c'est un petit peu dommage que Thomas soit pas là, parce que bon, je pense que par rapport à toi, il est un petit peu plus technique au niveau du dessin. Mais là, moi, le dessin, il m'a le cul, tout simplement, quoi. C'est du noir et blanc ou du gris et blanc des fois. Hein, c'est noir et blanc ou gris et blanc, quoi, hein, comme ça, quoi. D'accord. Mais par contre, la façon d'agencer les cases, la façon de prendre des angles de vue, enfin des angles de dessin qui sont un petit peu incongrus au départ, hein, qui sont très techniques. Là, on se dit, waouh, attends, il y a un truc qui est assez incroyable quand même, quoi. Rythmiquement,
il y a dans le cadrage effectivement une dynamique. Il y a une énorme déformation. On a des effets de fisheye, des points de fuite qui partent
énorme,
en déformation,
énorme.
Et c'est waouh. C'est impressionnant.
Ouais. Ouais, c'est énorme, quoi. Et justement, et l'histoire est là en plus pour rajouter un petit peu de petites choses. Alors, quand on arrive à la fin de l'histoire, on se dit ouais, mais attends, parce que bon, bah, ça a l'air d'être une histoire réaliste, et pourtant il y a plein de trucs qui sont Portnawak à fond les manettes. Hein. On commence à évoquer Alan Turing, les premiers ordinateurs, les trucs comme ça et
c'est
tout.
C'est
quoi.
Pas n'importe quoi.
Ok. Non, il y a des références. Il y a pas de problème. Hein. On n'est pas dans la science-fiction. Hein. On est vraiment dans un truc. On est en 1946. Il y a quelques flashbacks, bien sûr, qui aident à expliquer le pourquoi du comment des personnages, pourquoi ils sont devenus comme ça et pourquoi ils ont plus ou moins ces rapports. Et à la fin du bouquin, c'est-à-dire que quand on a terminé l'histoire, eh bien, il y a encore l'explication de Martin Stief, l'auteur. Au départ, c'est quand même un bouquin qui est sorti en 6 épisodes, hein, d'accord. Là, on a le truc original, quoi. Mais par contre, il y a les explications de Martin Stief qui dit pourquoi il a eu l'idée de cette histoire, d'où ça vient, quelles sont ses références, quelles sont ses sources, en fait. Et ce sont des sources qui sont véridiques, qu'il a adaptées et dont il a fait une histoire complètement à sa sauce, quoi. Mais par rapport à des références qui sont réelles, qui ont existé, qui sont là, qui sont bien présentes, enfin qui étaient encore bien présentes, quoi. Et là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuète, quoi.
Un bouquin assez épais quand même, dans les 300 pages facile.
272 pages.
Par contre, c'est clair, c'est un graphisme à l'encre de Chine, ou sinon effectivement il y a de la trame.
Ouais, la trame, il y en a pas tellement, hein, vraiment. Hein,
si les gris.
Oui, mais bon, c'est pas.
Par contre, bon. Soyons clairs, si vous n'êtes pas habitué au dessin en noir et blanc, et justement, ça risque d'être un petit peu difficile.
Ouais.
Mais
ouais.
Je pense que ça vaut le coup de s'y plonger. Ça demande effectivement un effort de lisibilité pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type-là. Oui, je l'ai vu, cette double planche, mais voilà.
Ça va, quoi. Ouais, ça va, quoi.
Et franchement, oui. Oui, ça amène vraiment beaucoup sur la culture graphique. De ce côté-là, il y a un bel effort. C'est vrai, sur
non, mais l'histoire, vraiment, en elle-même, quoi. Déjà, quoi, elle prend du début jusqu'à la fin, quoi. On commence, on veut pas arrêter avant la fin parce qu'on dit non, mais j'ai oublié quelque chose, ça va être dur et tout, quoi. Mais bon, ça le fait quand même. Et The Absence, en fait, c'est l'absence de Marwood Clay. Hein, c'est tout le temps qu'il a passé quand il est parti de ce village à la suite de cet incident, de cet incendie, quoi, et qui revient, quoi, justement, quoi, ce 6 août 45, quoi. C'est pendant tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là dans le village, mais avec l'apport des gens qui sont extérieurs, à savoir Marwood Clay et Julius Temple, quoi. Et là, c'est vraiment très très fort, quoi, énorme, quoi. Ça, c'est donc l'œuvre de Martin Stief, un Anglais qui scénarise et dessine. Il a tout fait, hein. Il a tout fait de A à Z. Alors, c'est un inconnu dans la BD, c'est sa première. Il en a jamais fait, quoi. Avant, il avait déjà fait deux pièces de théâtre qui ont été adaptées pour pièces de théâtre, enfin comédie musicale, on va dire, hein, plutôt musical, qui ont été adaptées, quoi, sur les scènes de Londres, hein, avec des succès en plus. Par ailleurs, ce monsieur est le boss de Amazing 15. Amazing 15 pour les gens qui parlent pas anglais, qui est une boîte de design, de licence, qui par exemple dans le catalogue BD, quoi, a les licences pour Clint Magazine, Doctor Who Adventure, Harry Potter, Star Wars, Smallville, Simpson. et des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, c'est leur truc en Angleterre, c'est eux qui adaptent. Ils ont également du merchandising, ils font également du design intérieur. Il y a également un truc design intérieur et tout, ce qui est son métier au départ. En fait,
tiens donc,
il est architecte, designer d'intérieur et tout ça, quoi. Bon, mais ça rappelle un peu Giger, mais sauf que lui, il est allé jusqu'au bout, quoi. Hein. Mais bon, il est jusqu'au bout de ses études, mais après, il a dit non, non, je vais faire autre chose, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Donc, Martin Steve, quoi. The Absence, ça, c'est paru chez Titan Comics. Titan Comics, hein, c'est l'équivalent, on va dire, de Fusion Comics ou de Panini chez nous, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est le gros fournisseur de comics américain et anglais, quoi. Hein, de l'autre côté du channel, quoi. Mais là, ça vaut le coup. Le livre a été nommé au British Comic Awards en novembre dernier. C'est pas lui qui a gagné, hein, c'est pas lui qui a gagné, quoi. C'est The Wind and Fall, que j'avais déjà lu, que j'avais déjà vu ici dans les librairies, quoi, donc en version française, quoi, et qui est sympa, quoi que ce soit pas ma tasse de thé, quoi. Mais enfin, bon, pour dire que, bon, bah, le type, premier essai, réussite, et en plus, direct, allez, on va fricoter avec les meilleurs, quoi. Là, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas s'il va y avoir une traduction française pour ce genre de truc, quoi. C'est ça qui m'inquiète beaucoup.
Ah, on a pas mal d'éditeurs comme IMHO, comme Roquin Marteau aussi. Ils font la traduction. Il y a quand même une scène indépendante.
Le problème, non,
parmi
c'est pas
les indés, il y a des trucs bien.
C'est pas un problème, mais le truc, c'est que c'est quand même anglo-anglais. On va dire dans l'histoire, dans le truc, il y a beaucoup énormément de références. Donc, ça peut paraître des fois un petit peu imbitable, quoi, aux gens qui sont habitués aux trucs de super-héros, qui sont neutres, on sait pas d'où ils viennent, on a rien à foutre, y a pas trop de références, quoi, voilà, quoi. Hein, là, bon, bah, ok, c'est quand même très, très marqué, on va dire. Mais bon, ne serait-ce que pour le graphisme de ce bouquin, hein, là,
oui,
vraiment,
ouais,
quoi, là, franchement, quoi, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. We'll be right back.
Bah oui, forcément. T'étais à Londres pendant le comic.
Mais j'ai pas fait exprès. Hein.
Pendant le Comic Day, effectivement, ouais. où ils distribuaient gratuitement des journaux, des bandes dessinées. Il y a eu la même chose en France avec les 48 heures de la bande dessinée.
Oui, c'est quelque chose qu'ils font depuis plusieurs années. Hein. Donc là, c'était le 3 mai dernier, dans n'importe quelle librairie BD spécialisée à Toulouse, ben vous arriviez et puis on vous filait des BD comme ça quoi à l'œil quoi, ça fait partie du deal. Alors concernant ces trucs que tu as vus là, qui sont les comics anglais qu'on a pu choper quoi dans une célèbre enseigne,
on peut le dire, ça n'existe pas en France.
Ouais, Forbidden Planet. Donc voilà. Ou carrément on vous distribue les trucs. Alors selon l'âge, on vous distribue soit des trucs plus ou moins adultes ou soit des trucs plus ou moins enfants.
Et pour le coup, t'aurais aimé te débarrasser de ton gamin, c'est ça?
Ah non, pas du tout, parce que bon bah j'ai eu droit à deux séries de trucs et tout quoi. Donc,
sympa.
Ouais, non mais sympa quoi, ça de ce côté. Par contre bon bah c'est plus des trailers, on va dire des teasers.
Ouais, de 8-16 pages à peu près.
Voilà, c'est ça quoi. Mais c'est quand même vachement intéressant quoi. En particulier le Gardien of the Galaxy quoi, dont le film va sortir le 13 août prochain et qui a l'air d'être assez rigolo.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Zapette aux zapettes magiques. Un seul film par soir, est-ce que tu tiendras le choc?
Ouais, pratiquement quoi. Ce soir donc vous avez le choix. Madrid contre Madrid.
Real contre Atlético. C'était hier El Piel des sur Arte.
Non, ouais, là c'est la Ligue des Champions quoi. Donc il y a
c'est
ça quoi de toute façon.
La Ligue des Champions c'est super héros.
Ou alors si vous n'aimez pas le foot quoi et que ça
vous
dit rien.
Ah d'accord.
Là sur Ciné Plus Classique ce soir 22h25, le sang de Fu Manchu. Un Jess Franco de 68.
Oui, et encore, il a repris en cours de production. Hein.
Avec Christopher Lee, Goethe Georg Szymanski.
Ah putain, c'est lui.
Et Maria Röhm. Oh, là, il était jeune, là. Hein. Oh, là, il était jeune. Hein. Sinon, si vous avez loupé cet excellent documentaire qui concerne des jeunes filles qui sont assez courtes vêtues, quoi, et qui sont montées sur patins à roulettes, et qui font un truc, un sport que les Américains ont inventé, vous savez, des nanas qui tournent autour d'un cercle et tout quoi, puis qui font la course quoi, comme ça quoi, en essayant de se foutre dehors.
Sushinette, si ça, tu nous écoutes.
Non, c'est pas Sushinette, c'est du roller derby donc. Et Planète A et E vous proposent ce soir à 20h45. Bon, c'est une rediff, hein, mais c'est bien qu'ils les rediffusent. Ça s'appelle Roller Girls et là c'est les épisodes 3 et 4, 6. Et en fait, ça couvre les le club de Toulouse de roller derby quoi. Donc on les voit s'entraîner et tout quoi, ils sont sous le pont de l'Europe et tout, c'est le pont qu'il y a à côté du stadium et tout quoi, c'est là qu'ils s'entraînent. Qu'elles s'entraînent hein, parce que ce sont des nanas quoi. Alors c'est assez rigolo parce que c'est que des mecs qui sont les entraîneurs et c'est un sport typiquement féminin quoi. Et là c'est vraiment très très intéressant quand même hein. Donc si vous avez loupé ça quoi, c'est ce soir sur Planète A et E à 20h45, Roller Girls numéro 3 et numéro 4 sur 6 épisodes. Demain, bon, TF1 X-Men Beginning, bah, on parlait de Matthew Vaughn, bah, c'est lui, Matthew Vaughn, Secret Service Kingsman.
Le First Class.
Eh bah, ben c'est lui qui fait également le X-Men Beginning.
Non, je croyais que c'était
X-Men le commencement en français quoi.
Oui, c'est ça, les premières classes, oui.
Voilà.
C'est James Bondien à mort et on retrouve l'esprit des comics des années 60. C'est vraiment incroyable comme ambiance. Non, franchement, très, 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 très bon. Là, j'ai hâte d'aller voir Day of the Future Past.
Ouais. Je pense que c'est pas mal, quoi.
Parce que après le troisième X-Men.
Ouais. Et alors, si vous allez regarder le Spider-Man, le destin d'un héros, quoi, le deuxième Spider-Man, là, qui est actuellement à l'affiche et tout, quoi, si vous restez jusqu'à la fin du générique.
As usual.
Vous avez quelques images du X-Men. Mais à mon avis, des images qui ne figureront pas dans le film, quoi.
Oui, parce que c'est trois studios différents, puisque Marvel avait revendu les droits à la Fox pour X-Men. Spider-Man, c'est il me semble que c'est Paramount. Et Marvel a monté après son propre studio qui a été racheté par Disney. Quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'aura jamais un crossover X-Men versus 4 Fantastiques. Si, pardon. Non, X-Men versus Spider-Man ou Avengers. C'est vraiment dommage pour le coup.
Ouais, faudra voir, hein, parce que bon, on connaît un peu l'histoire des comics, on peut se dire que.
Non, c'est bloqué, c'est vraiment bloqué parce que, par exemple, suite à la série X-Men. Marvel avait tenté de monter son studio de télé et avait fait une série assez pourrave. Et la Fox a pas du tout apprécié, ça a été un procès assez violent. Enfin bon.
En tout cas, si vous avez déjà vu le X-Men Beginning demain soir, Sifi vous propose Helix. C'est l'épisode 5 et 6. Donc,
qui a pas bonne presse du tout.
De cette excellente série kiffe à fond les manettes.
Ah, mais non,
quoi.
Elle a pas bonne presse.
Ah, ben j'en ai rien à foutre de la presse, quoi, figure-toi, quoi. Hein, parce que là, ça vaut vraiment. C'est vraiment très très bien ficelé. C'est un mélange, je sais pas quoi, d'Alien and The Thing, matinée de cette excellente série qui s'appelait Regenesis, hein, qui traitait des virus et des trucs comme ça et tout, quoi. Enfin bon, c'est vraiment très très bon, hein, vraiment. Helix, quoi, ça vaut le coup, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, séance de rattrapage pour les deux épisodes 5 et 6, c'est demain soir, donc à partir de 21h. Sinon, lundi sur Arte, soirée italienne avec à 20h50 Le Pigeon de Mario Monicelli. Ah, c'est un film qui est génial, qui est super, quoi, qui te fout la banane, quoi. Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Carla Gardina et Claudia Cardinale en 58, s'il vous plaît, hein. C'est plus la botoxée qu'on a vu descendre monter les marches à Cannes il y a deux jours, quoi. Non, là. Ok, quoi. Sinon, lundi, il y a également Kick-Ass sur W9. Bon, bah, on en parlait juste avant, quoi. Ou alors, un excellent polar de Hitchcock, qui n'est pas un Hitchcock qui est très connu. Il s'appelle Le Faux Coupable. Et dans lequel Henri Fonda, qui interprète un musicien, est faussement accusé d'un meurtre. Et donc, il va avoir tout le film, quoi, pour essayer de se défaire de ce
c'est
truc.
C'est la période hollywoodienne de Hitchcock, mais
1956,
mais il envoie.
Ouais, il est bien, quoi. Vraiment, il est bien, ouais. Quoi. Mardi, on a sur Action soirée. Bah, c'est con que Thomas soit pas là parce que lui, il aurait pu carrément.
D'accord, je mets le générateur de couilles.
20h50, Exilé de Johnny To avec Nick Chung, Anthony Wong et Francis Ng. Suivi de PTU, Police Tactical Unit, également du même taux, je crois.
Eh, belle prog, hein.
Ouais. Ça, c'est sur Action, donc mardi prochain. Ou sinon, Sifi, donc c'est le mardi que vous pouvez voir les épisodes inédits de Helix, donc en deuxième partie soirée à partir de 22h15. Et donc mardi prochain, épisode 7 et 8 de Helix, avec un Bill Campbell qui est excellent dedans, quoi. Avec le japonais qu'on avait vu dans Lost.
T'y arriveras pas.
Le japonais qu'on avait vu dans Lost, là, le type qui martyrisait plus ou moins sa femme japonaise, là, tu sais, quoi. Et puis qui est récupéré après, quoi.
Ah, mais
et
de toute lui, façon, là, c'est Pacifi, donc c'est une petite chaîne. Il faut être abonné à CanalSat pour avoir ça.
Ah bon?
Ah oui.
Ah, et pas que CanalSat. Pub. mardi, donc mercredi sur Sifi encore. Alors là, tu vas en bouffer parce que si vous avez loupé les premiers Helix, eh ben mercredi, Sifi, à partir de 21h, on propose du premier épisode jusqu'au numéro 5.
Je m'en fous, j'attends, okay. J'attends pour te pourrir le jeudi.
Ok, jeudi sur Epic.
Jeudi, tot Arte. Arte.
Real Humans.
Real Humans, okay. Saison 2 qui est pas mal. Ouais. Et ensuite, eh ben, sur France 4, Black Mirror.
Ah ouais, alors là, on a écouté dans l'introduction de l'émission, eh bien, on m'a écouté moi-même dans une dans laquelle je parlais de Black Mirror. Or, Black Mirror, eh bien, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil. Donc c'est toi qui m'as en causé maintenant de Black Mirror.
Black Mirror, c'est vraiment des histoires indépendantes et la chose qui est à retenir, c'est pas pour rien que ça passe après 22h30. Il y a du malaise, il y a du cul. Et quand je dis du cul, c'est du cul mais vraiment lourdingue et qui fait vraiment peur. C'est vraiment notre relation vis-à-vis de l'écran de ce côté-là. Je peux pas, je sais pas comment le résumer. C'est vraiment oui, au bout
c'est
d'un
complexe,
moment.
Hein.
Au bout d'un moment, on est vraiment dans une situation. On voit une situation qui est intenable, etc. Et en même temps, c'est le rapport vis-à-vis de l'écran, c'est-à-dire d'internet, de la télévision, de la communication et tout ça. Et en même temps, immédiatement, on se le prend dans la gueule et on se dit, mais c'est vrai, mais moi, dans quelle situation j'aurais été au même moment? C'est-à-dire quand on voit, quand on sait qu'il va avoir une scène bestiale au niveau sexuel, hein, assez violente, et tout le monde qui regarde dans les pubs, la télé, en attendant, ouais super, on va voir ça en plein après-midi, et alors que tout le monde dit, de toute façon, personne va regarder, non, personne va oser regarder ça, et en fait, tout le monde regarde.
Bien sûr.
Et t'es là, il y a énormément de choses. Primo à voir en VO. Et là, j'insiste. Secondo. Enregistrez-le, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, bon, laissez-le filer jusqu'à la fin, mais au bout d'un moment, vous aurez envie de revoir certaines séquences, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a un double, un triple langage, et il y a des moyens monstrueux. Ça, il n'y a pas à dire. Channel 4 a foutu les moyens. Il y en a vraiment un max. On est impressionné par les décors, par tout ce qu'il y a autour, et ça vous retourne le cœur par moment, mais ça vaut le coup. Il y a un triangle amoureux qui est intéressant. Ça, c'était dans la saison 2, dans l'épisode 2. Dans l'épisode 3, il y a un autre triangle amoureux avec une histoire de rupture où en fait tout le monde a une puce dans la tête qui enregistre et on peut projeter ce que vous avez vécu à n'importe quel moment. On peut faire des bookmarks, des marque-pages de vos mémoires et les projeter sur les télés. Donc évidemment, si jamais quelqu'un, sous le coup de la colère, traite sa femme, de toute façon, t'es qu'une pute. Imaginez, ça risque de ressortir à n'importe quel moment. Ouf, ça, sur la notion de vie privée et tout ça, ça envoie. Honnêtement, c'est vraiment une très 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 belle découverte. Ça a cartonné en Angleterre d'ailleurs, mais en France, ça a été l'audience surprise. Ça a très bien marché.
Bah, c'est pas étonnant, hein.
Ah ouais, mais ça vaut le coup.
Quand c'est qualitatif, il y a pas de problème, hein, de toute façon. Sinon, jeudi, il y a également le bon petit film genre bière pizza, quoi, on va dire. Celui-là, de toute façon, chaque fois qu'il passe le programme, hein, c'est La main qui tue, de Rodman Flender, avec Devon Sawa, c'est l'acteur principal, donc, mais il y a également Seth Green. Seth Green, c'est le mec qui jouait Oz dans Buffy. C'est le loup-garou.
D'accord. Okay. Oui, bah, à moitié du temps, il était maquillé.
Et il y a également Jessica Alba. Enfin, ne loupez pas le début du film parce que Jessica Alba, elle n'est pas jusqu'au bout, quoi. Hein, c'est juste pour vous dire, quoi. Mais sinon, c'est le film horrifique, mais bon, bah, où tu rigoles plus qu'autre chose, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est vraiment très très bien, quoi. C'est très très bien foutu, quoi. C'est vraiment presque un film d'ado, quoi, on va dire, quoi. Mais c'est assez jouissif, quand même. Et on termine avec vendredi, donc, vendredi prochain sur TCM. Ça, c'est la soirée bourre-pif, quoi, sur TCM. Alors, tout d'abord, à 20h40, Terminator. Et le magnifique, je sais plus comment on appelle ça, la magnifique blues rose de Linda Hamilton, quoi, quand elle se fait poursuivre par le Terminator. Alors là, c'est du kitsch, quoi, au niveau des fringues. Il faut que tu le vois, ça, si tu l'as jamais vu, quoi, parce que là vraiment, quoi, c'est, on est en plein dans les années 80, quoi, kitsch à fond les manettes,
promis, le bonus sera kitsch.
Ah oui,
je te fais un bonus kitsch là.
Et c'est juste après Terminator, on a The Wrestler, l'excellent film de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke et tout, vraiment très très bon film, quoi, vraiment. Et en ce moment, bah, Godzilla est à l'écran, quoi, au cinéma, donc bah, FX,
Ils refont l'intégrale
De Godzilla.
Les droits des films japonais. Donc ceux de Lato et ceux ensuite par le studio indépendant qui a repris dans les années 80.
Je n'ai pas parlé du Roland Emmerich qui est diffusé cette semaine. Tu remarqueras. Si, je viens d'en parler.
Merci.
Là, on est dans la période des années 90, début des années 90, avec à 21h, donc vendredi prochain sur FX, Godzilla contre King Ghidorah. Suivi à 22h40 de Godzilla contre Mothra 2, c'est le deuxième, hein. Mothra, c'est la mythe géante, quoi. Hein,
ouais, Mothra. Le premier, il y avait petits êtres qui chantaient et tout, c'était mignon et tout ça.
Et je pense qu'on y reviendra, quoi. Enfin bon, je préfère vous le dire de suite, quoi, de toute façon, quoi. Si vous avez envie d'aller voir le nouveau Godzilla au cinéma, qui est en ce moment, quoi, au cinéma, eh ben, je vous conseille quand même d'aller, juste pour remettre les idées en place et pour vous mettre bien dans le basique, si vous avez été contaminé par le Godzilla de Roland Emmerich, eh bien, vous regardez un de ces Godzilla, il n'y a pas de problème, hein, que ce soit dans la période des années 60, 70, 80, 90. Alors, dans les années 80 et 90, il y a une dimension horrifique qui vient se jeter dessus. Enfin,
il revient au tout premier Godzilla.
Oui, mais il y a des éléments. Il y a également des éléments qui sont plus contemporains, quoi, on va dire, hein, avec des trucs d'horreur et tout qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Godzilla où c'est vraiment que des monstres qui se bastonnent. Donc là, ça vous le coupe. Regardez un Godzilla traditionnel avant d'aller voir le Godzilla au cinéma, et là vous allez vraiment apprécier votre film, à mon avis.
Ok, ben bonus kitsch pour le coup. Peut-être que tu, dans les adaptations de comics traditionnels, il y a le fameux Flash Gordon qui a été produit par Dino De Laurentiis dans les années 80. Sachant que Dino De Laurentiis comprenait l'anglais, mais il exigeait que tous les scripts soient retraduits en italien, donc ça donnait un sacré méli-mélo. On le connaît aussi par la bande son faite par Queen, s'il vous plaît, et c'est Queen qui avait insisté pour faire la bande son. Et Dino De Laurentiis était d'ailleurs en très grande négociation, très avancée, pour que le réalisateur soit Federico Fellini, s'il vous plaît. Et cela a donné un clin d'œil sur la bestiole de la princesse Aura, qui porte le nom de Fellini, justement, dans l'histoire, le film.
Alors tu sais pourquoi ?
Et le producteur avait prévu dans le rôle titre Kurt Russell.
Mais c'est pourquoi Dino De Laurentiis voulait Fellini au départ pour ce film. Tout simplement parce qu'il avait produit tous les autres Fellini quoi, des années 70. Quoi.
Voilà, exactement. Et ma foi, c'est ainsi que se conclut le supplément week-end numéro 385. Et pour ceux qui ont loupé la diffusion en FM ou en stream qui est franchement aléatoire en ce moment, et on est vraiment désolé. Eh ben, vous pouvez la réécouter en podcast. Si vous avez écouté le podcast en diagonale, ma foi, vous avez manqué des trucs.
Vous avez manqué des nanas courtes vêtues avec des nibards gigantesques qui sont montés sur des lézards géants. Vous avez loupé des types qui rentrent au village après la guerre, mais à qui il manque les lèvres, une partie de la bouche, quoi, on va dire. Vous avez loupé du hard-boiled brillamment introduit par un auteur de polar qui s'appelle Lawrence Block. C'est Gotham Central. Vous avez loupé le nouveau James Bond. Il s'appelle Jack London. Et vous avez loupé la chronique de Kick-Ass 3.
Et vous avez loupé... c'était Arnold Schwarzenegger qui essayait de faire d'une Clint Eastwood.
Ah oui, et vous avez loupé le film spécial demi-tarif pour tous les coiffeurs.
Mais si vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, c'est facile, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, sans accent ni tiret, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89,1 mégacycle en modulation de fréquence analogique. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net quand ça marche. Dans le prochain épisode, nous sommes en direct de Mixar Miris pour le Toulouse Hacker Space Festival. Je vais y arriver. Je me suis planté, c'est pas festival. Je suis désolé. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Pas du sport, pas d'ultimatum. Normalement, il y aura une facette grunt. Il y aura surtout Pete. Et on aura, on va parler vie privée, on va parler bricolage, on va parler électronique, on va parler création, on va parler aussi découverte des mômes et tout ça. Ça va pas mal bricoler ce jour-là, je pense. On sera en direct et en public, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Voilà, merci à tous, bien à vous.
Il y a à manger et à boire.
Et il te reste 90 secondes pour changer de coin.
Non, je pense que je vais faire l'impasse, là, tu vois.
Il va falloir que tu fasses demi-tour, mon cher ami. Ciao, bye bye.